Go, la review dit presse JB.
Ce podcast est disponible H24 sur iTunes, PodCloud,
Deezer et YouTube.
C'est pas sexy Sarah ça?
C'est pas sexy choucroute Sarah ça?
Bonjour à toutes et tous, nous sommes le jeudi 22 mars 2018. Et oui, demain c'est vendredi, après c'est le week-end. Aujourd'hui, grosse journée de grève. Alors je ne sais pas si vous êtes chez vous, si vous défilez, bon, si c'est le cas, hein, prenez quand même une petite vingtaine de minutes pour écouter l'émission, ça mange pas de pain. Bref, où que vous soyez, ou en train de galérer dans les transports, pense que la revue de presse JV est là quand même pour vous apporter quelques minutes de bonheur dans cette journée tumultueuse. Un gros programme encore aujourd'hui. Donc sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est de manière très naturelle, sans pousser son voisin, de commencer l'émission. Allez, c'est parti. Commençons avec la traditionnelle brochette de news. Et tout d'abord, une excellente nouvelle pour les fans de Mario comme moi. Sachez que l'encyclopédie Super Mario Bros. Sortira donc bel et bien en France le 4 juillet 2018. Tac, c'est tombé hier. On en avait déjà parlé dans l'émission, hein, notamment dans sa traduction américaine. Mais ça va arriver donc chez nous le 4 juillet. Je rappelle que édité au Japon en 2015 pour fêter joyeusement les 30 ans de Super Mario Bros., ce gros bouquin de 256 pages est blindé d'informations et d'illustrations issues des 17 premiers jeux Super Mario, donc du tout premier épisode de la Famicom, jusqu'à Super Mario 3D World. Effectivement, le bouquin datant de 2015, et Super Mario Odyssey n'était pas sorti. Il y a aussi une belle interview de Takashi Tezuka dedans. Donc autrement dit, moi je l'attends comme un petit foufou, je frétille comme une petite truite à l'idée de parcourir ces pages. On a appris aussi que Street Fighter 30e anniversaire Collection allait sortir le 29 mai sur PS4, Xbox One, Switch et PC. La date est tombée et pour tous ceux qui voudraient précommander cette grosse compile, une copie numérique d'Ultra Street Fighter 4 sera offerte. Alors je rappelle, attention la liste est assez longue, mais enfin je vais essayer d'être le plus clair possible, que cette compile comporte les portages arcade donc du premier Street Fighter, de Street Fighter 2, Street Fighter 2 Champion Edition, Street Fighter 2 Hyper Fighting, qui sera jouable en ligne, Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 Turbo, jouable également en ligne, Street Fighter Alpha, Street Fighter Alpha 2, Street Fighter Alpha 3, qui sera donc jouable en ligne également, Street Fighter 3, Street Fighter 3 Second Impact et Street Fighter 3 Third Strike, le 3.3, le fameux jouable en ligne, lui aussi. Donc grande nouvelle pour les fans de Street Fighter. Will Wright, le papa de SimCity, de sport des Sims et de toute la troupe, est de retour. SimHunt, souvenez-vous. Et de retour donc avec un tout nouveau projet qui était présenté à la conférence Unity de la GDC 2018, un jeu qui s'appelle Proxy. Il sera basé donc sur le moteur Unity, et jeuxvideo.com nous en dit plus sur ce projet, en nous disant qu'il est développé par le studio Gallium Artist, et Proxy s'annonce comme un jeu de simulation où les utilisateurs créeront leur propre monde en tissant un réseau de souvenirs appelé MEMS. Le titre promet d'être collaboratif avec la possibilité de bâtir une expérience partagée. Très conceptuelle, nous dit jeuxvideo.com, l'idée se matérialisera dès la fin de l'année sur mobile et d'autres plateformes sont à venir, mais on ne les connaît pas encore. Bandai Namco a enfin levé le voile sur Dragon Ball Legends, son prochain jeu mobile. Donc un jeu de baston 3D à base de cartes pour porter tous les coups qu'on veut. La réalisation est quand même assez impressionnante vu le support. C'est un free-to-play donc qui est attendu cette année, on n'a pas encore de date précise, sur iOS et Android, et qui a déjà donné le coup d'envoi de sa campagne de pré-inscription. Donc soyez sur le coup, les gars. Il faut savoir qu'il y a un personnage inédit conçu par Akira Toriyama qui sera dans le lot. Pour l'instant, donc, on n'en sait pas plus. On ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, déjà, les premières images sont assez impressionnantes. Enfin, a été confirmé le portage Switch de IS 8, qui sortira bien chez nous la même semaine qu'au Japon. Donc le lancement européen est calé pour le vendredi 29 juin. « Oda Goichi aimerait bien des remasters de ses vieilles gloires. Et c'est Pippo Mantis sur Gamecult. Pippo Mantis, hein, la sensation mercato hein, de cette période de l'année, j'ai envie de dire, transfuge de Canard PC qui a rejoint donc les rangs de Gamecult. Et donc, qui nous dit que lors d'une petite sauterie privée du studio Grasshopper Manufacture il y a quelques jours, Suda Goichi, hein, alias Suda51, a partagé son envie de voir quelques anciens de ses jeux ressuscités sur des plateformes moderne. Les deux titres hein, mentionnés par Suda Goichi sont, sans grande surprise, hein, nous dit Pippo Mantis, le jeu d'enquête Flower, Sun and Rain, hein, sorti en 2001 sur PlayStation 2 et qui avait été porté sur DS hein, en 2008, et surtout hein, le fantastique Killer 7, le beau, le grand, le fantastique Killer 7 même, hein, que Puyo, nous dit Pippo Mantis, a bien évidemment sous-noté, pensant sûrement que le titre du jeu était un mode d'emploi pour son test. Bien qu'il n'y ait rien d'officiel pour l'instant, nous dit la news, mais bon voilà, Suda51 a l'air super motivé hein, pour relancer certaines de ses anciennes gloires. Et Pippo Mantis nous rappelle qu'avec son gameplay à mi-chemin entre le jeu d'aventure et le shooter statique sur CDI, son ambiance qui invoque tour à tour un Tarantino, un Lynch ou les Power Rangers, et sa direction artistique en cel-shading, Killer 7 est l'un des jeux les plus uniques et audacieux de son époque, et je plus sois totalement. D'autant que ses graphismes particuliers, hein, nous dit Pippo Mantis, tout en aplats de couleurs et en géométrie brute et simpliste, passe très bien l'épreuve de l'upscale. Et effectivement, il suffit de regarder, comme le précise hein, la news, l'émulateur Dolphin, pour s'en convaincre. Alors vous le savez, je suis un grand fan de monsieur Suda51, de monsieur Suda Goichi, et le fait de voir Killer 7 revenir en HD, je pense que ça se prêterait vraiment tout à fait vraiment à la direction artistique de ce jeu. Ce serait fantastique, imaginez, ne serait-ce que sur Switch. Comment ça pourrait être bon. Moi, je suis même pour qu'on ressorte tous les jeux de Goichi Suda. Et parmi mes fantasmes, je vous dévoile tout ce matin, j'aimerais avoir une compilation des deux premiers No More Heroes. C'est même étonnant, ce serait étonnant en tout cas que ce ne soit pas dans la caboche hein, de l'ami Goichi, ni dans celle de Grasshopper, puisque pour pousser un peu le spin-off de No More Heroes, il serait quand même intéressant de sortir les deux premiers jeux dans une compilation flambant neuve sur Switch. Écoutez, moi en tout cas, ça me ferait complètement tourner la tête, ça me rendrait foufou. Je crois que vous n'auriez pas fini d'en entendre parler dans cette émission. Comment faire connaître Minecraft à un enfant autiste? C'est un article écrit par Michel Wu sur le site US Offspring. C'est Lucci, merci vraiment à elle de m'avoir envoyé cet article, puisque vous le savez, je suis concerné par le sujet également. Mais même si vous n'êtes pas concerné, vous verrez que ce texte, je trouve, peut aussi s'adresser aux enfants non autistes, puisque je ne cesse de vouer les vertus de Minecraft depuis très longtemps. Et j'ai trouvé dans ce papier énormément d'arguments auxquels j'adhère vraiment à 100%. Et donc, ce papier nous dit qu'il est difficile, hein, finalement, de dire exactement pourquoi les enfants autistes hein, sont parmi les plus grands adeptes de Minecraft. Le jeu, hein, je le rappelle, où vous construisez des mondes à partir de blocs de type Lego, et comme je le dis, très souvent, Minecraft, pour moi, est vraiment le Lego des années 2010. C'est assez extraordinaire pour les adultes aussi, et les ados, bien sûr, mais vraiment pour les enfants, essayer en mode bac à sable, en mode créatif, et vous verrez que c'est le mode créatif, d'ailleurs, où il n'y a pas de règles, pas de combat, où c'est que de la création de monde, et vous verrez, ça a des vertus assez, assez nobles, je trouve. Bref, je continue, et donc ce papier du site Offspring nous parle de Stuart Duncan, père de deux enfants, et qui pense, pour sa part, que si Minecraft a un écho aussi retentissant chez les jeunes autistes, hein, c'est grâce à l'union parfaite, selon lui, de deux opposés. D'une part, Minecraft offre, selon lui, une structure complète, hein, de l'eau aux portes jusqu'à la chute de lave. Tout se comporte avec une certaine prévisibilité dont les enfants autistes ont besoin. D'autre part, il donne donc à ses joueurs une liberté infinie. Il n'y a pas d'histoire, pas de niveau, pas de quête à compléter, etc. Derrière le bouclier hein, de l'écran d'ordinateur ou de la console, hein, nous on y joue sur PS4 à la maison, les joueurs peuvent faire tout ce qu'ils veulent dans un espace convivial sur le plan sensoriel. Ça, c'est très important. Donc, ce monsieur Duncan nous dit, je le cite, « Avoir la liberté de faire tout ce que vous voulez tout en se sentant en sécurité dans le cadre d'un ensemble structuré de règles et de routines, est libérateur. Précisons que Duncan est atteint d'autisme tout comme son fils aîné. Il y a environ 6 ans, la famille a commencé à jouer à Minecraft et a littéralement adoré. Mais il y avait des défis à relever, nous dit-on. Sur les médias sociaux, par exemple, Duncan voyait les parents tendre la main à d'autres parents leur demandant si leurs enfants autistes pouvaient jouer au jeu ensemble parce qu'ils rencontraient des brutes et des trolls à chaque fois qu'ils jouaient sur des serveurs publics où tout et n'importe quoi se réunit. Je pense que ça, on l'a tous connu, même en tant qu'adulte. Les trolls, les personnes qui insultent à tout va sans parler des harceleurs. Bref, la dégueulasserie humaine n'a pas de limite, n'a pas de frontières. Et donc Duncan nous explique que les joueurs détruisaient tout ce que donc ses enfants essayaient de faire, volaient les ressources et tuaient leurs personnages encore et encore et encore. C'est alors donc que ce monsieur a eu l'idée de construire un autre Minecraft. Hein. Donc il est développeur web hein, au Canada, nous précisons. Un Minecraft juste pour les enfants autistes et leurs familles. Il s'est octroyé son propre serveur et a appelé cette version Outcraft. Donc la première syllabe d'autisme et la dernière syllabe de Minecraft. Aujourd'hui, nous dit cet article, Outcraft est si populaire que Duncan le gère à plein temps. Alors pour y jouer, il faut faire une demande. Le serveur est surveillé de très très près par des bénévoles qui comprennent vraiment le cas de l'autisme. Ils savent comment désamorcer les disputes, résoudre les problèmes et réparer les brimades. Les joueurs gagnent des titres. Hein, en étant serviable, gentil et respectueux de tout le monde hein, sur le serveur. Dans ce jeu, dans cette version de Minecraft, Duncan a aussi créé des chambres calmes pour soulager l'anxiété. Certaines sont lumineuses avec des lumières clignotantes, tandis que d'autres sont très sombres avec de minuscules points blancs ressemblant à des étoiles. Les joueurs peuvent choisir le type d'entrée sensorielle dont ils ont besoin à ce moment-là. On nous précise aussi que le chat dans le jeu est désactivé. Donc personne ne vous dérange lorsque vous allez vous isoler dans une de ces chambres. Ce qui permet aux joueurs de faire une pause. Alors, il faut savoir qu'il y a autant d'enfants autistes que de cas d'autisme. C'est-à-dire que chaque cas est différent. Effectivement, moi, mon petit champion n'a pas forcément besoin d'aller s'isoler dans Minecraft. Il s'amuse vraiment à faire des constructions, à construire des édifices, à faire des réseaux de grottes, etc. etc. Mais ce Duncan a vraiment pensé à tout, puisque vraiment, il s'adapte. En tout cas, il est difficile d'établir une liste complète de cas précisément d'autisme, mais en tout cas, il essaie de s'adapter à diverses réactions que pourraient rencontrer ses enfants. Certains parents, d'ailleurs, hein, ont dit à ce monsieur qu'Outcraft a été capable de faire ce que des années de thérapie n'a pu réaliser. C'est quand même hallucinant hein, de lire ça. Il les a aidés, il a aidé les enfants à exprimer leurs besoins, à demander de l'aide et à reconnaître que leurs actions affectent les autres. Même ceux qui ne sont pas verbaux peuvent communiquer via le chat, puisqu'il y a certains autistes qui ne sont pas verbal, ils peuvent être même non verbaux jusqu'à un certain âge. Il faut savoir aussi que l'un des problèmes de l'autisme, c'est tout ce qui est rapport sociétaux, tout ce qui est vie en société, la communication avec autrui, comprendre les émotions de l'autre, savoir comment réagir dans telle ou telle situation donnée. Et effectivement, bah, visiblement, Outcraft a aidé ces enfants-là en ce sens également. Et donc, ce monsieur Duncan hein, espère que les enfants apprendront et grandiront sur Outcraft pour qu'un jour ils puissent jouer sur des serveurs publics, rassemblant des joueurs du monde entier et sans avoir peur de le faire, surtout. Enfin, Duncan propose quelques conseils aux parents. Ces conseils hein, peuvent s'appliquer à tous les profils d'enfants. Donc s'il y a des parents qui m'écoutent, ou si vous connaissez des parents dans votre entourage, je ne peux que valider ce genre de conseils. C'est-à-dire, il dit déjà de jouer avec son enfant. Hein, et que c'est une expérience d'attachement incroyable. Duncan dit hein, « Je sais que les jeux vidéo ou la technologie peuvent sembler étrangers aux parents, mais honnêtement, ce n'est pas si mal. Être capable de construire un monde entier avec votre enfant est une expérience que vous ne pouvez tout simplement pas obtenir ailleurs. Vous rirez, vous serez créatifs ensemble, vous travaillerez en équipe et vous rêverez ensemble. Il n'y a rien de tel. » Il dit aussi, et ça c'est très intéressant, qu'il faut laisser l'enfant devenir enseignant, l'enseignant de son parent. C'est-à-dire que pour les parents qui sont nouveaux à Minecraft, Monsieur Duncan suggère de laisser l'enfant être votre guide. Il dit, je cite, « Cela permet à l'enfant de se sentir important, confiant, en contrôle et utile. » Et que l'inversion des rôles permet à l'enfant et aux parents de voir les choses dans la perspective de l'autre. Il faut d'après lui hein, également poursuivre les conversations hors ligne, Sur Roadcraft, les joueurs apprennent à parler, à planifier et à travailler avec les autres, ce qui peut être difficile quand on n'a pas l'habitude d'avoir des relations. Il conseille également aux parents de surveiller les nouveaux comportements à la maison. Il dit, je cite, « La plupart du temps, ces petites conversations qui se déroulent sur le serveur peuvent sembler sans importance. Mais ensuite, j'entends des parents qui me disent que les enfants ont commencé à partager et même à donner des choses à d'autres enfants ou qu'ils ont commencé à se faire des amis à l'école ou que quelqu'un a cassé quelque chose qui leur appartenait et qu'ils ne se sont même pas fâchés. » Mais, nous dit cet article vers la fin, le plus grand conseil que Duncan donne aux parents est de ne pas s'éloigner du jeu parce qu'ils ne le comprennent pas. Bien sûr, Outcraft est un monde fantastique, nous dit Michel Wu, où les enfants autistes jouent derrière des avatars pixelisés, mais c'est peut-être le monde où ils peuvent être les plus réels. Alors que vos enfants soient autistes ou non autistes, ou qu'il y ait un handicap, qu'il n'y ait pas d'handicap du tout, quoi qu'il arrive, je suis persuadé que jouer en famille à Minecraft est hyper bénéfique. C'est un jeu qui stimule énormément l'imagination, et vraiment tout le monde peut y trouver son compte. Donc je terminerai ce segment de l'émission en vous incitant vraiment à jouer à Minecraft, sachant que il est également très jouable sur console. Alors je sais qu'il existe sur Switch, on n'a pas encore la version Switch, mais je sais que sur PS4, c'est un modèle d'ergonomie, un modèle vraiment d'ergonomie au pad. C'est assez bluffant pour pouvoir y jouer sur la télé familiale, tranquillement. Sinon, bien sûr, il y a la version PC qui est conseillée, ça ne fait aucun doute, mais sur console, ça marche également très bien. Je vous ai déjà dit tout le bien que je pensais des jeux estampillés SteamWorld, et j'ai un amour immodéré pour SteamWorld Dig, premier du nom, et SteamWorld Heist. Et SteamWorld Dig 2, je n'ai pas eu l'occasion encore de m'y plonger. Je rappelle qu'il va faire partie des jeux entre guillemets offerts pour ceux qui sont Twitch Prime début avril, ayant un abonnement Amazon Prime. Bien évidemment, je suis donc d'emblée Twitch Prime et donc je pourrai jouer à SteamWorld Dig 2. Encore faut-il que je trouve le temps, mais ça c'est encore autre chose. En tout cas, début avril. Mais il est vrai que la version qui fait le plus envie, ça reste quand même la version Switch, comme d'habitude. Et Nintendo Différence donc nous apprend. Là, au moment où j'enregistre en direct live différé pour vous, bien sûr, c'est-à-dire que là, il est 22h, donc on apprend que la version physique de SteamWorld Dig 2 sur Switch et PS4 arrive le 27 avril en Europe. Et c'est Klaus, l'excellent Klaus de Nintendo Différence, qui nous apprend ça, et donc il nous dit que c'est Rising Star qui a annoncé que l'édition physique de SteamWorld Dig 2 arriverait donc le 27 avril en Europe. Concernant les États-Unis, nous dit Klaus, la version boîte est toujours prévue pour ce printemps sans plus de précision. Pour rappel, en plus du jeu, cette version physique contiendra un poster double face exclusif avec une illustration du jeu, ainsi qu'une couverture réversible avec une illustration inédite et jamais vue auparavant. Le directeur général d'Image & Form, donc le studio derrière les SteamWorld, a été très heureux de voir avec son équipe la réaction largement positive de la communauté face à SteamWorld Dig 2, d'autant plus que ce jeu était un épisode important pour l'univers de la série et les développeurs en sont très fiers, nous dit la news. Étant donné que de nombreux fans ont demandé une sortie en version physique, donc le studio s'est exécuté. L'occasion quand même de rappeler, et comme nous rappelle Klaus, à juste titre, que SteamWorld Collection existe également sur Wii U et PS4, et qui contient SteamWorld Dig et SteamWorld Heist. Alors, deux bombes atomiques si vous ne connaissez pas, mais alors foncez dessus dans deux genres totalement différents. C'est enivrant, il n'y a pas d'autre mot. Donc en tout cas, voici une très bonne nouvelle que je tenais à vous délivrer pour que vous l'ayez ce matin dans les oreilles en sirotant votre café ou en galérant dans les transports, mes pauvres. Mais en tout cas, voilà, vous le savez, SteamWorld Dig 2 donc, est daté en boîte sur PS4 et sur Switch, et moi, il me tarde de pouvoir m'y essayer, bien sûr. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette édition du jour. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a réconforté en cette journée pas forcément facile pour tout le monde. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, même flux, vous ne le savez que trop bien, pour la dernière émission de la semaine. Enfin, la dernière, pas pour les tipeurs qui auront leur édition du samedi. Je vous souhaite une excellente journée, bon courage. N'hésitez pas de partager un max, à faire un petit tour sur le Tipeee si vous avez envie de m'aider. Panache et robustesse à vous, gros bisous. Et à demain. Allez, bye bye.